Le Grand Dialogue.
Sigika Foba.
Edouani
wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Berry.
Halou Dmoni.
Chenni Berry. Sigika Foba. Le Grand Dialogue.
Auditeurs et téléspectateurs de Studio Tamani, bonsoir. Le Grand Dialogue de Studio Tamani est délocalisé aujourd'hui au Centre international de conférences de Bamako, où aujourd'hui a eu lieu une cérémonie symbolique de réparation en lien avec les crimes qui ont été commis par Ahmad Al-Faki à Tombouctou, notamment en lien avec 10 bâtiments religieux qui ont été détruits. Pour en débattre, nous allons parler, échanger avec Monsieur Baba Moulay, membre de la société civile. Il est le président de la société civile de Tombouctou, Maître Mokhtar Mariko qui représente la MDH et Sanchirfi Alpha, responsable des mausolées Al-Famoui. Je suis Mohamedou Touré, auditeur et téléspectateur. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue.
Le Grand Dialogue.
Alors, la première question à vous, Monsieur Baba Moulay, cette cérémonie de réparation symbolique qui a eu lieu au Centre international de conférences de Bamako à l'initiative de la Cour pénale internationale, qu'est-ce qu'elle représente pour vous?
Bonjour Studio Tamani, spectateurs de Studio Tamani. Bon, cette cérémonie, pour moi, d'abord, c'est une cérémonie pleine d'émotions. J'ai été très ému tout au long de la cérémonie. Je ne croyais pas et j'ai vécu. Je n'y croyais pas. Je ne pensais même pas qu'Alpha Ki allait être arrêté, traduit en justice et jusqu'à faire une cérémonie de remise symbolique pour la réparation. Ça, je n'y croyais pas.
Pourquoi vous n'y croyez pas?
Parce que je ne savais pas que... Bon, comme on l'a dit, c'est la première fois que une telle cérémonie se passe. Donc je ne croyais pas qu'on pouvait l'arrêter. De la façon dont il s'est comporté à Tombouctou, ils ont disparu dans la nature. Parce que jusqu'à présent, certains n'ont pas été retrouvés. Qu'on le retrouve, qu'on l'amène à la haie, qu'on le juge. Vous voyez, tout ce parcours, je n'y croyais pas. Bon, mais quand on l'a amené, j'ai cru. Et quand on a dit qu'il y aura des dommages, j'avais un doute, et qu'aujourd'hui ça se passe comme ça. Je dis qu'aujourd'hui, je sais que dans le monde, il y a une justice. Il y a une justice qui parle au nom des plus vulnérables. Donc pour moi, c'est très symbolique. Et j'en suis très ravi.
Il y a une justice qui parle au nom des plus vulnérables. Est-ce le même sentiment que vous avez en ce moment, M. Sanchirfi?
Moi, je n'ai pas ce sentiment. Mais simplement que ce qui se passe, c'est une première. Une première, même si ça ne colle pas tellement avec nos traditions. Parce que expliquer aux communs des Tombouctiens la remise d'un franc symbolique, ils vont s'étonner, ils se demandent c'est quoi. Mais il appartient justement aux leaders de leur expliquer. Parce qu'en fait, toute nation, tout peuple qui a une culture forte connaît les symboles. Leur expliquer que c'est un symbole. Et que c'est un symbole fort. Un symbole fort en ce sens que Tombouctou a toujours eu cette capacité de renaître de ses cendres. Et je le disais tantôt, c'est Amadou Ampateba qui disait lors d'une conférence qu'il a tenue en 1973 à Tombouctou, lors de l'inauguration du centre Ahmed Baba qui est devenu institut, il a dit, je cite, « Sur le plan culturel, les nations formaient un seul rang. Tombouctou était à la tête du rang. Mais un jour, Dieu a dit demi-tour et Tombouctou s'est retrouvé à la queue du rang. Il dit, on ne sait pas, peut-être qu'un jour, Dieu dira encore demi-tour pour que Tombouctou retrouve sa place. Fin de citation. Et à mon sens, je crois que le demi-tour est dit. Le demi-tour est dit et je pense que ce symbole fort va sonner la renaissance culturelle de Tombouctou. Et de son patrimoine.
Et pourquoi n'avez-vous pas le sentiment, comme M. Baba Moulay, que la justice est en train d'être rendue?
Parce que moi, parce que souvent il y a des cas qui sont juste des symboles, qui sont juste pour faire moi. Parce que quand, comme il l'a dit, on n'y croyait pas, mais quand il a été écrit, nous avons dit que c'est le menu fretin qui a été écrit. Les véritables responsables, les véritables commanditaires courent encore toujours. Donc, on peut avoir de l'espoir, mais sans y croire tellement, c'est ça, en tout cas, mon point de vue. Parce que dans ce genre de situation, ce sur lequel on met beaucoup l'accent, c'est le côté protocolaire, le côté la diffusion médiatique et tout ça, alors que la réalité est peut-être tout autre.
Alors, un héros a été remis à l'État et à l'UNESCO. Vous l'avez dit, il y a beaucoup de gens qui vont s'interroger sur ce que ça représente. Un héros, environ 650 francs CFA, Maître Mokhtar Mariko. Est-ce que vous pouvez expliquer aux auditeurs et téléspectateurs en quoi consiste cette remise d'un héros?
Bon, je remercie tous les téléspectateurs et auditeurs de Sidio Tamani. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est le couronnement des efforts de la population de Tombouctou, d'abord, de la population malienne et de la communauté internationale. Parce que, comme vous l'avez vu sur le plateau, il y avait le représentant de tout ce que je viens de citer. Et surtout, nous avons la chance ou le mérite d'avoir Mama Koité, qui est la présidente du Fonds pour les victimes. L'euro symbolique fait partie aussi des condamnations en matière pénale, c'est-à-dire en matière de justice tout court. On peut parler de condamnation à un symbole, un franc symbolique ou l'euro symbolique. Donc moi je pense que c'est le couronnement des efforts de tout ce que je viens de citer et que c'est un premier pas dans la situation du Mali. Je rejoins mon frère de l'autre côté, il fut vraiment très difficile de penser qu'un jour il peut y avoir un jugement. Et quand ce jugement a lieu à La Haye, et quand il y a une condamnation, il y avait des boutades qu'on nous jetait souvent. On disait, qu'est-ce que vous avez fait? Un procès de pierre et de terre. Agelhok est là-bas, rien n'a été fait pour Agelhok. Nous avons dit à ces gens-là que nous sommes une société de culture et que Tombouctou est une référence dans le monde entier. Et que quand les mausolées, les mausolées des saints et les mosquées ont été détruits à Tombouctou, il fallait une réponse à la communauté internationale et c'est cette réponse qu'on est en train de célébrer aujourd'hui.
Monsieur Babamoulaye disait que justice est en train d'être rendue, mais Monsieur Sandchirfi estime que ce sont des menus frétins aujourd'hui qui sont arrêtés. Les vrais auteurs également courent toujours. Qu'en dites-vous?
Je suis entièrement d'accord parce que nous avons fait beaucoup de voyages avec la société civile malienne. Il y en a qui venaient de Tombouctou, je ne veux pas citer des noms ici, et qui se reconnaissent très bien. Nous sommes allés et nous avons posé la même question à Fatou Ben Souda dans son bureau. Elle nous a répondu, on fait avec les moyens de bord. On est en train de commencer la situation du Mali. Soyez-en sûrs que d'ici quelques temps, d'ici son départ, malheureusement il est parti avant que ce qu'on appelle les gros bonnets ne soient appréhendés. Les gros bonnets ne soient appréhendés. Mais aujourd'hui, moi en tant que militant des droits de l'homme, je me réjouis du fait qu'il y a une petite progression dans la situation du Mali. Donc je partage un peu son sentiment, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec cela parce que il fallait bien que ça commence et ça a commencé et nous pensons que la situation du Mali par rapport au niveau de la CPI ne doit pas s'arrêter là. Ça va continuer parce que tant que les organisations de la société civile sont là, tant que les Tombouctiens sont là et qu'ils connaissent ces gens, ça ne va pas s'arrêter aujourd'hui. On va toujours les persécuter, les appréhender afin qu'ils répondent des crimes qu'ils ont été commis.
Vous avez dit que Fatou Ben Souda vous a répondu qu'on va faire avec les moyens de bord. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura des auteurs qui ne seront pas jugés si les moyens de bord ne le permettent pas?
Bon, ça va être compliqué. Vous avez vu l'Allemagne nazie. À la date d'aujourd'hui, on continue à chercher les nazis qui se cachent un peu partout. C'est exactement la même chose. Mais c'est la persévérance et la résilience de la population malienne et particulièrement celle de Tombouctou qui fera que nous allons faire bouger au niveau de la CPI. Parce que si on a des informations, on est obligé de donner ces informations. Et quand la CPI a ces informations, elle ne peut plus se cacher derrière quoi que ce soit. Voilà pourquoi nous disons qu'elle avait dit à son époque, parce que c'était le début de la situation du Mali, il y avait trop de problèmes et les rapports qui avaient été envoyés au niveau de la CPI n'avaient détaillé que donner des détails que sur la destruction des mausolées. Voilà pourquoi ce procès-là a été mis au premier plan. Mais je suis sûr que le reste va venir. Parce que Fatou Ben Souda, dans son bureau, nous a dit que la requête du Mali est recevable en la forme. Donc ça veut dire qu'il n'y aura aucun obstacle pour empêcher l'examen de ce dossier-là. Mais il ne sert à rien de se précipiter. Il faut réunir toute la documentation nécessaire pour affronter ceux qui ont commis et ceux qui ont fait souffrir la population de Tombouctou et celle du Mali. Donc, je vais finir en disant il faudrait qu'on fasse énormément attention parce que de l'autre côté en face, nous avons des avocats qui exploitent la moindre faille. Donc, c'est à nous maintenant d'argumenter, d'apporter beaucoup d'éléments afin que cette justice puisse vraiment se saisir de ces situations. Sinon, on peut prendre un gros bonnet, mais s'il n'y a rien contre ce gros bonnet, ça va être un coup de feu dans l'eau. Et c'est ce qu'il faut éviter. Allons doucement et sûrement.
Le rapport qui a été soumis porte sur la destruction des mausolées. Monsieur Sanchirfi, est-ce que vous pouvez nous parler aujourd'hui de l'ampleur des dégâts concernant cette destruction des mausolées à Tombouctou?
Bon, l'ampleur, vraiment, il faut dire que la destruction des mausolées a été comme un coup de massue. Parce que les mausolées avaient un caractère sacré. Et même la porte sacrée de la mosquée Chidiya, donc dans l'imaginaire des enfants, on leur dit, bon, de toute façon, nous, quand on était petits, le jour où cette porte va s'ouvrir, c'est la fin du monde. Donc vraiment, il y a des rites qui sont là, sans que l'on fasse ce qu'ils pensent, parce qu'on ne vénère pas les saints, hein, on ne vénère pas les saints du tout. Ce sont des rites, on prie pour les saints, on pense qu'ils ont une certaine posture, que dans la vie, ils ont eu un certain nombre de connaissances, de comportements moraux, tout ça. Alors, d'abord, quand ça allait se passer, moi, j'étais là, les gens n'y croyaient pas. Les premiers qui ont dit, bon, ils ont commencé à donner des coups de pioche, les mausolées, les gens ne voulaient même pas y croire. Encore que ça, ce n'est pas possible. Finalement, les gens sont sortis, ils ont commencé à regarder. J'étais parmi les observateurs. Pratiquement, à la fin, moi, j'étais arrêté là. On les voyait, ils nous maintenaient à distance, mais ils faisaient le travail de destruction. Alors là, les gens étaient sidérés. Donc au premier, deuxième jour, les gens étaient dépassés. Mais finalement, je crois qu'ils ont eu un esprit philosophique, qu'ils ont pris avec philosophie. Ils se sont dit, de toute façon, ceux qui sont en train de tirer là, ce n'est que du banco. Ce n'est que du banco. Même le corps, on ne peut pas le toucher. Parce que l'individu, ce n'est pas le corps, c'est la poussière qui est dans la poussière. C'est l'âme. Même un héros. Le héros, c'est quand il meurt qu'il devient célèbre. Donc, ils ne peuvent pas toucher. Moi, j'ai même eu à dire à des journalistes, ils disent, quel sentiment vous avez par rapport à la destruction des mausolées? J'ai dit, bon, j'étais très frustré au départ, mais finalement, je m'en suis réjoui. Ils me disent, comment? J'ai dit, oui, parce que ces mausolées sont tellement anciens, on veut bien les réparer, les reprendre, mais nous nous interdisons cela parce que nous, c'est sacré. Maintenant, nous avons eu des gens qui l'ont cassé à notre place. On va le refaire, on le refera. De toute façon, ça reste un symbole et un symbole, on ne peut pas le détruire.
Bah, on voulait partager, vous, cette analyse de M. Sanchirfi.
Ben oui, San, lui, c'est un expert en la matière. Quand San parle de mausolée, à Tombouctou, tout le monde sait. Je ne sais pas, peut-être qu'il ne l'a pas découvert. Quand il parle de mausolée ou bien il parle d'histoire de Tombouctou, tout le monde sait. Mais seulement dans ces mausolées, c'est que moi, je voudrais que vous sachiez, c'est que à Tombouctou, le mausolée, c'est pour tout le monde. Soit tes arrière-parents sont enterrés autour des mosquées, de ces saints, soit ils sont dans un autre saint. En tout cas, tout le monde se retrouve dans une pierre aux côtés des mausolées. On se retrouve partout. Moi, le premier jour, à la destruction du mausolée de Dingrébé, j'étais là. À la destruction de Sid Mahmoud, j'ai vu des gens pleurer. J'étais le premier à interpeller le chef d'état-major d'Acme pour lui dire. Je l'ai amené jusque chez moi pour lui dire que je n'étais pas content. On peut s'attaquer aux vivants, mais on ne s'attaque pas aux morts. Il dit qu'il n'était pas là, qu'il doit me chercher une réponse. Il est revenu, il m'a dit, c'est désolé qu'ils sont en train de chercher les auteurs. J'ai compris. Il m'a dit beaucoup de choses que je ne vais pas répéter ici. Mais ce que Tombouctou a de spécial, c'est qu'il y a des gens dans ce monde qui connaissent Tombouctou mieux que les Tombouctiens. C'est très important. Ils ont fait de Tombouctou, la connaissance de Tombouctou, leur vie. Ils vivent de ça, mais ils aiment Tombouctou. Souvent, moi, que je rencontre des gens qui me parlent de Tombouctou, ils me noient. Ils me noient. Par ricochet, Maître Marico, je ne l'ai jamais rencontré. Je ne vous ai jamais rencontré. En 2019, le monsieur de la MDH de la Guinée m'a demandé si je le connaissais. Uniquement parce qu'il a entendu que je venais de Tombouctou. Pour lui, Maître Marico était de Tombouctou. Il m'a demandé si je le connais. J'ai dit, physiquement, je ne le connais pas. Mais quand le gars a commencé à me parler de Tombouctou, j'étais étonné. J'étais étonné au Sénégal, j'étais étonné. Il m'a dit, d'ailleurs, mon petit frère est muté à Tombouctou, vous allez le rencontrer. Ce dernier vient à Tombouctou, son premier geste, j'ai envie de voir une mosquée. Notre vie, c'est les mosquées. Notre vie, c'est les mosquées. Moi, je suis à 41 mètres de la porte ouverte, de la porte de Sidéia qui a été détruite. Je ne sais pas comment les génies ont pu me situer, me dire, voilà, vous êtes à 41 mètres de la mosquée de Sidéia, je veux que vous m'envoyez une photo. Le jour où on remettait la porte, on était ensemble quand on remettait la porte. J'ai dit, mais comment il a su que moi je suis à 41 mètres de la mosquée? Il dit, regardez votre Google Earth. Je lui dis, c'est bizarre. Là d'où vous me téléphonez, je suis chez moi et vous savez que je suis à 41 mètres de la mosquée. Pour vous dire que certains vivent Tombouctou. Tombouctou, comme on l'a dit, c'est un patrimoine mondial, ce n'est plus pour nous. Ce n'est plus pour nous. Donc, et dire encore, ce qui renforce que ma conviction, attendez, ce qui renforce ma conviction que justice a été faite, justice est rendue, il y a d'autres personnes dans le couloir à la CPI. D'autres personnes sont arrêtées qui sont en train de partir, qui sont en train d'être entendues. Cela veut dire que Tombouctou n'a jamais été abandonné, maître. Vous voyez ?
Aujourd'hui, est-ce qu'en reconstruisant ces mausolées, ça aura la même valeur, cette même valeur ?
Ça dit la destruction nous a touchés, mais ça n'a pas entaché la valeur de ces mausolées. Non, point du tout. Dans la mesure où ça a renforcé nous notre conviction que nous devons veiller à la sécurité de ces mausolées. L'autre jour, une petite pierre qui s'est déplacée sous la porte, ça m'a dit, il a été automatiquement interpellé. Cela veut dire que les gens y veillent tous les jours. Une petite porte, n'est-ce pas? Et un petit trou qui s'est fait en bas de Moselle, il m'a dit, est-ce que tu as vu le petit trou? Aujourd'hui, notre combat, nous avons mis un comité en place qui regroupe les chefs de quartier, les imams, le cadi, le chef coutumier, la société civile, les jeunes. On a mis un comité en place. Son premier combat a été nettoyer les devants des cimetières, que tout le monde quitte. Que ce soit clean, que l'accès soit visible. Vous avez vu sur la photo, vous avez vu ce qui fait honte, la rentrée d'un cimetière, vous avez vu des ânes avec des charrettes, la porte en bas. Vous voyez que ces mausolées ne sont pas entretenues. Donc on ne va pas attendre que l'UNESCO vienne entretenir une porte qui est tombée, ou bien un âne qui s'arrête à la porte. Ce n'est pas normal. Donc nous sommes interpellés. Tout ce qui s'est passé là nous interpelle. Et chaque fois qu'on... C'est lui le rapporteur du groupe, il peut vous en dire plus. Chaque fois qu'on se réunit, aujourd'hui, la priorité, c'est les cimetières. Il faut nettoyer devant.
Alors, M. Maître Moukhtar Mariko, est-ce que les manuscrits également sont concernés dans cette affaire de réparation symbolique?
Bon, je n'ai pas beaucoup d'éléments là-dessus, que les manuscrits soient touchés, mais comme le spécialiste maison est là, moi, j'ai quand même appris. Et je suis même allé à Tombouctou, on m'a dit que beaucoup de manuscrits ont été sauvés grâce au courage des Tombouctiens eux-mêmes qui se sont organisés pour faire sortir ces documents et les mettre en lieu sûr. Donc, même au niveau de la CPI, on nous a posé la question. J'ai dit, je n'ai pas beaucoup d'informations, mais à mon avis, je pense que beaucoup de manuscrits ont été sauvés et mis à l'abri des prédateurs qui étaient venus pour tout détruire.
Qu'en est-il des manuscrits?
Quand on parle de manuscrits, ce qui a été détruit, c'est très infime, parce qu'il y a 4000 et quelques manuscrits qui ont été détruits. Mais comme il a dit, une équipe de Tombouctiens, de la Sabama, Et il y a 400 000 manuscrits qui sont présentement à Bamako, qui ont été exfiltrés.
400 000 manuscrits qui étaient à Bamako ont été exfiltrés.
Mm. Et il y a encore des manuscrits, parce que certains manuscrits du centre Mbaba, le centre Mbaba dispose de 40 000 manuscrits qui sont là-bas sur place. Mm. Alors, donc, quand on parle de manuscrits, on ne peut pas, parce qu'en réalité, les manuscrits même n'ont pas, il n'y a pas de statut juridique même. C'est-à-dire qu'il y a une bataille qui est menée là. Alors, c'est pour qui? Est-ce que c'est pour la communauté? Est-ce que c'est... Donc, vraiment, ils ont ouvert le débat, ils ont fait beaucoup d'ateliers, mais ils n'ont pas pu définir exactement le statut du manuscrit.
Mmh. D'accord. Je reviens vers vous. Il est indiqué également qu'il y a une réparation concernant les victimes, une somme qui doit être donnée à ces victimes, environ 1,8 milliard de francs CFA. Est-ce que vous pensez que cette somme est suffisante pour ces victimes-là?
Bon, moi, de mon avis, c'est-à-dire que rien ne peut payer la souffrance que la population de Tombouctou a endurée pendant ces mois. C'est-à-dire que ce montant peut peut-être servir pour faire une sorte de réparation collective, pour permettre aux Tombouctiens de se remémorer, et comme l'a dit Baba Moulaye, et d'avoir toujours à l'esprit qu'ils sont là pour garder ces mausolées qui font partie de notre histoire et qui font partie de l'histoire du monde présentement, parce que depuis 1988, ces monuments, et ces mausolées, mosquées ont été déclarés patrimoine culturel. Donc, moi je pense que l'argent ne peut pas suffire à faire réparer ce que la population a subi en ce moment. Mais l'argent peut être peut-être un moyen pour leur permettre de faire des statuts, de se remémorer, de créer une grande place, ou bien de donner à ces familles. Parce que, si je ne m'abuse, il y a des familles qui sont liées à ces mausolées. C'est-à-dire que si vous... on a même appris, peut-être que quelqu'un est devenu fou parce que ce mausolée a été détruit. Il ne pouvait pas le croire. Donc l'argent ne peut pas prendre la place de cette douleur-là, de cette souffrance. Donc je pense que.
Mais à ce stade, est-ce qu'il n'est pas prévu de partager la somme-là entre les victimes au lieu d'en faire un truc collectif comme vous le proposez?
Non, mais ça dépend de la population de Tombouctou. Hein. Parce que quand vous mettez à partager cet argent entre eux, ça ne va pas suffire. Ça ne va pas vraiment suffire. Ça ne va pas suffire parce que il y a tout, c'est-à-dire que c'est presque toute la population de Tombouctou qui est concernée par ces mausolées. Et comment va se faire cette distribution? À l'époque, on nous avait posé la question, nous avons dit, de notre avis, nous voulons une réparation collective. Et ce que nous voulons, aussi, c'est d'entretenir ces mausolées, de donner l'argent, les moyens à la communauté de Tombouctou, surtout au centre culturel qui va être la locomotive de tout ça, pour vraiment prendre soin de ces mausolées et des mosquées qui ont été vraiment détruites. Donc, moi, je pense que il serait mieux pour nous tous, parce qu'on est tous concernés, que cet argent-là ne soit pas partagé individuellement, que cet argent-là puisse être investi dans quelque chose qui va permettre aux Tombouctiens et à tous les Maliens et au monde entier de se souvenir, à chaque fois qu'on met les pieds à Tombouctou, de se souvenir qu'il y a eu tel événement, mais avec le courage et l'abnégation de la population, surtout la résilience de la population de Tombouctou, qu'on est arrivé à faire ça, à faire ça, à faire ça, pour que les gens puissent se remémorer, et ce serait un devoir de mémoire pour l'histoire.
Mmh. Baba Moulaye, est-ce que ce n'est pas un partage de cette somme entre les victimes qui est prévu?
Bon,
le micro.
C'est pas moi, c'est beaucoup. Depuis 2 ans, j'ai beaucoup échangé avec la présidente Mama Koité, qui est une collaboratrice. Mais je pense que moi, j'avais mis un cas de figure. Il y a des gens qui ont été affectés, comme Maître l'a dit. Ça a affecté le domaine du tourisme. Tous les hôtels étaient fermés parce qu'il n'y a plus de touristes. Ils sont fermés. Les guides sont au chômage. Les artisans sont au chômage. Vous voyez? Donc il y a tout ça. Tous ceux-ci ont été affectés par la destruction de ces mausolées, par extension. Donc il faut trouver les moyens de mettre tout le monde dans le bénéfice de cet argent. Oui. Mais ça peut ne pas être distribué de l'argent. Ça peut ne pas distribuer de l'argent. Donc il y a beaucoup de choses. Les hôteliers peuvent dire peuvent avoir une compensation fiscale, c'est un moyen. Ils peuvent avoir d'autres assistances, renforcer leur capacité d'accueil. Les guides, bon, pour ne plus tomber dans cela encore, parce qu'il n'y a pas de touristes, il faut créer d'autres événements par lesquels on peut attirer les touristes et pour qu'ils vivent. Mais tout ça est tributaire de la sécurité. Il faut travailler aussi du côté de sécurité pour permettre, maintenant, avec cette cérémonie que nous avons vécue ici, qui est d'une portée mondiale, ça va susciter beaucoup d'autres curiosités. Beaucoup d'autres curiosités. Ça va amener beaucoup d'autres personnes à vouloir visiter Tombouctou. Mais il faudrait que Tombouctou soit aussi dans la capacité d'accueillir ces gens aussi. C'est très important.
Il semblerait que ces 200 000 francs CFA que les victimes doivent recevoir, c'est l'information qu'on entend de part et d'autre. Est-ce qu'elle est confirmée? Est-ce que vous avez...
Vous êtes journaliste, vous êtes des souris, vous rentrez dans tous les trous, vous avez les informations. Nous, on n'a pas ces informations. Moi, ils me donnent 200 000 francs parce qu'on a détruit les mausolées. Je ne prendrai pas, je vais le remettre au miezin pour qu'il appelle bien la mosquée.
Et vous, M. Sanchirfi, avez-vous entendu?
En fait, j'ai eu beaucoup de réunions avec l'équipe. Mm-hmm. En fait, je crois que les réparations, il y a les réparations individuelles et les réparations collectives. Les réparations individuelles, c'est les descendants directs des saints. On leur donnait par Orange Money une certaine somme. Et les réparations collectives, ils sont en train de signer des contrats avec des entreprises pour regrouper les gens, par exemple des guides, des maisons, des maçons, les regrouper, faire des micro-projets qu'ils vont les financer. Voilà comment ils comptent procéder.
Mais pour les réparations individuelles, est-ce que vous avez une idée de la somme qui était envoyée par Orange
Money? Ils demandent aux gens de ne pas dire, mais les gens disent. Moi,
il y a un monsieur
qui m'a dit qu'il a reçu 200 000.
200 000
j'ai dit, bon, tu as reçu 200 000. Il y a un professeur qui dit que si tu reçois tout ce que tu reçois de la dot de ton grand-père, là, ce n'est qu'un bénéfice parce que toi, tu n'étais pas encore là. Mmh. Donc, je crois que cette réparation ici, elle doit être symbolique. Parce qu'en fait... l'argent dont il est question, il y a non seulement les réparations individuelles, les réparations collectives, mais il y a aussi un renforcement de la sécurité des cimetières où se trouvent les mausolées. Mmh. Il parle même parce qu'on avait fait des propositions. On dit que Tombouctou évolue dans un certain sens, certaines choses qu'on ne connaît pas, parce que Tombouctou, il n'y a pas de gardien pour un cimetière. On dit qu'il faut prendre des gardiens, il faut construire un local pour le gardien, il faut faire un éclairage, faire une, comment dirais-je, des clôtures qui ne sont pas choses perméables aux chiens, aux ânes et tout. Donc ça fait partie, en fait. Il faut renforcer la sécurité des cimetières, faire des projets pour des groupes de personnes et la réparation par individuel. Mm.
Et concernant les autres crimes, notamment les crimes sexuels et autres, qu'est-ce qui est prévu là-dessus, Monsieur Marico?
Ça, c'est un peu compliqué, parce que les crimes sexuels sont au niveau du Mali, et surtout au niveau, présentement, du pôle judiciaire spécialisé. Parce que on a vraiment bataillé, parce que Tombouctou a été la zone dans laquelle il y a eu beaucoup de viols. Beaucoup de femmes ont été violées dans la zone Tombouctou. Les Nations Unies, après leur enquête, l'ont même reconnu, parce que nous avions fait un rapport dans ce sens. Maintenant, ça a été confirmé par les rapports des Nations Unies. Les plaintes sont déposées au niveau de Bamako, et les plaintes là, beaucoup de femmes victimes de ces violences sexuelles ou sexistes avaient été entendues, plus de 80 sur 120. Mais à la date d'aujourd'hui, les dossiers-là ne bougent pas. Nous avons même dit aujourd'hui, on va rencontrer Fatou Bensouda pour parler de ces dossiers-là, parce que les crimes sexuels-là ont été d'une violence extrêmement inouïe dans la zone de Tombouctou. Il y a beaucoup de femmes qui vont rester avec des séquelles dans leur vie. Il y a beaucoup de femmes qui ont été chassées de leur foyer. Donc nous disons que c'est au Mali maintenant de relever l'étendard.
Et sait-on pourquoi ces dossiers ne bougent pas?
Ces dossiers ne bougent pas parce que c'est le politique qui s'y mêle très souvent dans le judiciaire. Et vous avez vu beaucoup de nos prisons, dans beaucoup de nos prisons, il y a eu des libérations politiques. Depuis 2012, l'accord de Ouagadougou, en passant par les élections 2013, jusqu'à la libération des derniers otages, il y a beaucoup de ces gens qui ont été libérés. Or, certaines victimes, certaines femmes sont à même d'identifier ceux qui les ont violés. Mais si tous ces gens-là sont encore remis sur le sable, est-ce qu'il peut y avoir une justice? Donc, la plainte qu'on a posée, il faut que je le dise aussi, que les gens comprennent que c'est à part nommément certaines personnes dont je vais taire les noms, certaines victimes ont désigné nommément leurs violeurs. À part celles-là, toutes les plaintes concernent, comment on appelle, c'est des plaintes contre X. X est à découvrir. Donc c'est un peu compliqué parce que certaines victimes ont été agressées la nuit notamment et n'ont pas vu leur agresseur parce qu'ils étaient plusieurs. Donc il y a beaucoup de viols collectifs, il y a beaucoup de viols individuels. Mais nous demandons à l'État du Mali vraiment de tout faire pour faire bouger ce dossier. Parce qu'au Mali, on se connaît tous. Et même les amis de Tombouctou savent quel était le groupe qui opérait dans telle ou telle zone. On ne va pas le dire à votre micro, mais tout le monde le sait. Donc, il est facile de retrouver ces auteurs-là tout de suite. Ceux qui étaient à Goundam, ceux qui étaient à Diré, ceux qui étaient à Ber. Non, on peut le savoir tout de suite et à la minute près. Il suffit que la justice bouge. Si la justice malienne bouge, on aura des résultats à ce dossier-là. Et pour le moment, nous avons demandé à ceux qui ont des fonds spéciaux pour ces victimes-là. Parce que si on ne peut pas aller à un procès...
Pour les solutions, on va y revenir tout à l'heure. Ce retard dont Maître Maricot parle concernant l'affaire des crimes, notamment sexuels, comment est la libération de certains présumés djihadistes? Comment les victimes de Tombouctou vivent-elles cette situation?
Bon, ce côté du dossier m'intéresse à plus d'un titre. Je vais taire beaucoup de choses. Parce que je suis en contact direct avec les victimes. Je suis vice-président d'une association pour la défense des victimes de la rébellion, Adverma, que peut-être Maître connaît bien. Donc, je suis en contact direct avec les victimes. Nous nous réunissons très souvent. Et j'avoue que ce qui me choque le plus, c'est que c'est à 100% des femmes analphabètes. Presque à 100%. Bon. La libération dont vous parlez là.
Pourquoi ça vous choque?
Elles n'entendent pas. Elles n'écoutent même pas. Elles ne savent même pas. Ça, c'est à un autre niveau. Des gens ont été libérés, elles ne comprennent pas ça. Ils se disent toujours, elles sont toujours dans la peur qu'un jour ou l'autre, une ville qui n'est pas contrôlée, un jour ou l'autre, ces gens peuvent venir. Ce qui est bizarre, c'est que certaines savent que les femmes qu'elles ont violées, ou bien que les femmes qu'elles ont mariées, ou bien les femmes avec lesquelles elles ont eu certains rapports, ont fait des enfants après eux. Donc il y a la hantise qu'un jour ou l'autre, il peut revenir. Ça, une femme a dit ça, parce qu'elle porte, elle a un enfant. Quand on est en réunion, je vois l'enfant de petit violet qui trottine entre nous.
Le micro, oui.
Ça fait mal. Ça fait mal. Donc, à un moment, on a poussé avec l'aménagement pour au moins appuyer ces femmes. La section droits de l'homme a appuyé les femmes qui étaient dans une précarité vraiment totale. Il les a appuyées pour soulager. Sinon, je ne me rappelle pas que vraiment l'État a fait quelque chose.
C'est un processus compliqué, estime Maître Maricot. Est-ce que vous pensez que ces victimes comprennent cela ou est-ce qu'elles pensent qu'elles sont abandonnées par l'État?
Ce n'est pas un processus compliqué. Non, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas un processus compliqué. C'est un processus simple. Il s'agit de venir d'abord, avant la justice, de venir en aide à ces personnes qui ont été bafouillées dans leur dignité. Et réparons nous-mêmes. Chez vous, je vais transposer les victimes des Béret Rouges. Les familles ont été dédommagées. Les familles ont eu de l'argent, ils ont eu tout ce qu'il faut. Mais même s'ils continuaient à réclamer justice. Ou bien, l'État n'a pas fait quelque chose de ce côté. Pourquoi l'État ne fait pas quelque chose ici? C'est ça le problème, Monsieur Touré.
Est-ce la même question que vous posez, Monsieur Sanchifri?
Ils sont plus spécialistes que moi. C'est tellement délicat.
Je vais vous dire une chose. Le cap que nous avons passé avec ces occupants, nous avons osé affronter
toutes sortes de dangers avec eux. On a séjourné avec eux pendant 10 mois. Mmh. Nous avons osé affronter tous les dangers. Nous avons bravé même les interdits. Les gens parlent des gars au Tombouctou, nous étions les premiers à marcher contre eux, qu'ils sortent de notre ville. Nous avons, nous, de l'association de défense des victimes, nous avons été les premiers à aller rencontrer leurs chefs pour les demander pourquoi vous êtes venus ici. Moi particulièrement, avec mon président, on a été les premiers à leur demander pourquoi vous n'êtes pas. Donc c'est pas, on n'a pas eu peur, ce n'est pas des autorités maliennes qu'on va avoir peur de dire la vérité. Il y a injustice même dans le comportement de notre gouvernement. De Ibeka jusqu'à aujourd'hui, c'est une injustice. Vous avez repéré pour ceux que vous avez tués ici, vous avez réparé. Mais pourquoi ceux qui ont été offensés, vous ne réparez pas? Ce n'est pas sérieux. Il faut qu'on ait un gouvernement qui ose. Il faut oser. L'argent public, là, ce n'est pas pour eux. C'est l'argent du peuple. C'est ces femmes qui sont dans la précarité, là. Il faut les aider. Il faut les remettre à flot. Elles peuvent oublier. Tant que vous ne renforcez pas leur résilience, elles vont continuer à faire le cauchemar. Je n'ai rien eu. On m'a violé par la défaillance du système sécuritaire de mon État. C'est l'État le premier responsable.
On va demander à Maître Marico si il partage cette analyse que vous faites, ces interrogations que vous posez. Pourquoi, selon lui, les victimes des bérets rouges ont bénéficié de réparations et que les femmes, les victimes des crimes sexuels, notamment à Tombouctou, ne bénéficient pas de ces mêmes réparations?
Bon, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais je sais qu'il a raison. Il a raison. Il suffit d'une volonté politique pour mettre fin à tout ça. Cette volonté politique a été exprimée dans le cas des bérets rouges. Voilà pourquoi il y a eu cette indemnisation à leur profit. Je suis d'accord avec lui. Pourquoi ne pas le faire avec les victimes de violences sexuelles ou sexistes qui vivent dans la peur et dans la terreur? Parce que elles nous disent, si nous retournons, même si le bourreau là se rend compte que vous êtes déplacé, pendant au moins une ou deux semaines, il y a des questionnements autour de votre personne et on cherche à savoir où vous étiez allé. Parce qu'ils savent qu'ils vont être dénoncés. Les bourreaux-là vont être dénoncés par les victimes. Donc, ils sont en train d'anticiper, de leur faire peur. Si l'État, animé d'une volonté politique, prend en charge ces victimes, comme il a dit, ça va abréger leur souffrance. Vous avez vu le cas des bérets rouges. Les bérets rouges sont sortis pour les familles des bérets pour dire que vraiment on accepte le pardon parce que l'État nous a regardés et l'État a fait un geste pour nous. Pourquoi ne pas le faire avec les femmes, surtout
même,
les
femmes? Même avec ces réparations, certains estiment aujourd'hui que concernant le cas des bérets rouges, l'affaire Sanogo, qu'il n'y a pas eu de justice, que la justice n'a pas été tranchée. Est-ce que en procédant avec ces mêmes réparations, les victimes de ces crimes sexuels à Tombouctou ne risquent pas de subir la même chose avec les auteurs qui ne seront pas jugés, comme le pensent certains Maliens, concernant le cas Sanogo?
Non, c'est pas la même chose. C'est pas exactement la même chose. Et les gens oublient quelque chose. En matière de lutte contre l'impunité, la réparation aussi est un point de la lutte contre l'impunité. Parce qu'on condamne l'individu qui a commis l'infraction, non seulement à une peine de prison, et aussi on le condamne à réparer. Donc si l'État, qui a été défaillant depuis le début, si vous voyez que les bérets rouges, là, ils ont été amenés, ils ont été retrouvés dans ces charniers de Diago, c'est que quelque part, l'État n'a pas joué son rôle. Parce que le rôle premier de l'État, c'est de protéger la personne et leurs biens. Ça n'a pas été fait dans le cas des bérets rouges. Et ça n'a pas été aussi fait dans le cas de ces pauvres femmes-là. Donc, moi, je dis, parce que l'État a exprimé sa volonté politique pour le gars des bureaux rouges, l'État peut aussi exprimer sa volonté envers ces femmes-là pour qu'il y ait un apaisement, pour qu'il y ait ce comportement qu'on appelle la paix. Parce que ce n'est pas un vain mot. Les gens parlent de paix. La paix, c'est dans le comportement. Il faudrait voir la personne pour savoir qu'elle est en paix avec elle-même et qu'elle est en paix avec sa communauté et sa société. Donc, ce rôle-là, il revient à l'État. Il suffit de faire une proposition, comme la CPI est en train de le faire. La CPI est en train de le faire. C'est-à-dire qu'on n'a pas de moyens colossaux, c'est vrai. Mais au Mali, il suffit de créer des structures ou bien des activités pour ces femmes-là afin qu'elles oublient tout. Donc c'est ce que nous attendons de l'État. Et surtout dans les cas des femmes violées, là, il n'y avait pas de médecin à l'époque. Et c'est compliqué d'amener la preuve.
Et tous les témoins qui viendront vont faire les témoignages sous l'anonymat. Parce qu'ils cohabitent avec les mêmes personnes là-bas. Et tu fais un témoignage, le lendemain, on sait que c'est toi qui as déposé dans le dossier du juge, le lendemain, on te retrouve mort chez toi. Donc c'est extrêmement compliqué. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est un peu différent. Mais nous interpellons l'État. Il faudrait que l'État fasse quelque chose pour ces femmes du Nord qui ont été vraiment, excusez-moi, abîmées. Dignité, plus de dignité, plus de famille pour certaines. Et comme il a dit, moi je connais une dame violée par quelqu'un qui était très proche d'elle, qui lui a fait un enfant de force. Et cet enfant en train de grandir avec elle. Et cette dame a été abandonnée par son mari. C'est compliqué. Il faudrait que l'État intervienne rapidement et tout de suite pour vraiment soulager ces femmes au nord du Mali.
Il semblerait qu'en plus de toute cette souffrance, que ces femmes-là soient victimes aussi de stigmatisation à Tombouctou, San Chirifi.
Oui, c'est tout à fait juste. D'ailleurs, c'est ce qui amène à voir à la hausse le nombre de victimes. Parce que maintenant, on a parlé d'un certain nombre, mais c'est deux ou trois fois plus. Il y a certains qui ne veulent même pas évoquer. Ils ne veulent pas évoquer, c'est la honte, c'est l'abandon. Et surtout que dans la mentalité de Tombouctou, même en dehors de ces crimes sexuels qui introduisent une honte, il est difficile en Tombouctou de revendiquer. Les Tombouctou, ils préfèrent renoncer à ses droits. Mais nous, nous sommes en train de le combattre, particulièrement la société civile, parce qu'on dit que Tombouctou, le vrai Tombouctou, qu'on appelle Tombouctou, on ne lui pardonne pas trop de choses. S'il divorce, une femme avec laquelle il a des enfants, divorcer avec, c'est impardonnable. La l'autorise, mais c'est impardonnable. Ou bien s'il vend la maison qu'il a héritée de son père. Ou bien s'il traîne quelqu'un à la justice, ou même à la police. Donc il y a cette mentalité aussi à convaincre. Parce que pour aider une victime, là, il faut qu'elle soit consentante. Sinon, on ne peut pas l'aider. Tu ne peux pas l'aider. Lui, il en sait beaucoup plus que moi. Parce qu'il y a beaucoup qui refusent. Ils refusent. Ils préfèrent commander, mourir avec leur souffrance. Et c'est un problème.
Alors, Maître Mariko et Baba Moulay ont souligné tout de suite un manque de volonté politique, notamment concernant la résolution, la réparation de la situation en ce qui concerne Tombouctou. Est-ce que vous pensez que concernant la reconstruction des mausolées de Tombouctou, cette volonté politique va accompagner ce processus?
Bon, moi je le pense, parce qu'en fait, au niveau des mausolées, parce qu'il faut le dire, les Tombouctiens, déjà quand il y a eu la destruction, la communauté tombouctienne, on dit qu'on va les réparer. Ce sont nos mausolées à nous. Mais on nous a arrêtés. On a tenu une grande réunion chez l'imam. On a écrit au ministre, dit non, ce n'est pas pour vous. Ce n'est pas pour vous. C'est la communauté internationale qui va. C'est un bien commun international. Sinon, les Tombouctiens étaient prêts, comment dirais-je, à réparer. Donc, si... dans cette logique, je pense que dans ce cas-là, il y a une volonté politique qui est là. Mais je pense qu'il n'y a pas suffisamment d'accompagnement des populations à Tombouctou. Et c'est ça, c'est dommage. C'est une question de sensibilisation.
Alors, crise sécuritaire depuis 2012, la situation qui perdure toujours. Quelles sont vos attentes envers l'État malien et la communauté internationale concernant la justice, Monsieur Baba Moulay?
Concernant la justice.
Pour la suite de ce processus.
Bon, moi, je. Parce que dans toute bonne démocratie, il faut avoir une justice forte. Tant qu'on n'a pas. Non, mais répondez vous-même, je n'apprécie pas. Non, il faut qu'on ait une justice forte. Au Mali, tant que le Malien ne voit pas en face de lui une force, il ne s'applique pas. Et tout ce qui se passe, c'est parce que les auteurs ne voient pas une résistance en face d'eux.
Faut-il donc tout confier à la justice internationale?
Non, jamais. Jamais. Il faut mettre nos juges dans les conditions de travail. Moi, je sais, je suis multi-acteur. Je suis à la coalition, la lutte contre la corruption. J'ai beaucoup de
donc fonds sur lesquels je me bats. Vous pensez que tout doit être mobilisé pour que la justice tout ça, malienne et internationale joue son rôle.
C'est le manque de répression qui amène le Malien à cette indiscipline.
Non. Il nous reste juste une minute. Maître Mariko, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, que la justice malienne peut résoudre ces situations-là?
Oui, moi je le pense. Je le pense réellement du fond du cœur.
Que est-elle la... forte comme poser la question?
Forte, c'est un terme un peu péjoratif pour moi. Mais je dirais tout simplement que la justice malienne peut rehausser les manches et donner des décisions à souhait si on la met dans des conditions. Parce qu'il est souvent difficile de voter des mauvaises lois, de remettre aux juges et ensuite de les accuser. Cette loi d'antan dont on parle là, depuis 2018, nous on a écrit au chef de l'État pour dire que la loi n'est pas bonne. On a écrit à tout le monde, des conférences à radio, à la radio, à la télévision. Mais on n'a pas été écouté. C'est maintenant quand les avocats de l'autre ont soulevé que les juges ont appliqué la loi pour une voix, il y a problème. Donc c'est compliqué, vraiment c'est compliqué. Donc je pense qu'elle peut relever les défis de la justice malienne.
Merci à nos trois invités, M. Baba Moulaye, membre de la société civile de Tombouctou, M. Mokhtar Mariko de l'AMDH et San Shirfi Alpha, responsable des mausolées Alpha Moy. Le Grand Dialogue, vous le suivez en direct du Centre international de conférence de Bamako et à la régie audio et vidéo, Mamadi Keïta, Mamadou Ouattara et Mamoutou Konaté. Je suis Mohamedou Touré. On se retrouve demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani. Merci à toutes et à tous et à demain.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Ouamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry.
Halou Mouni.
Chenne Berry.
Sigi Kafoba.